Bon, difficile de faire la transition après ce chant tellement puissant, victorieux, joyeux. Mais je voudrais commencer par le témoignage du cousin de... On a été élevés presque ensemble, mais on disait de lui qu'il était fin, spirituel, intelligent. Et de moi, on ne disait pas grand-chose, en fait. Pourtant, je vous assure que dans ma tête, il y en a. Je réfléchis tout. Je calcule tout. Je me méfie de tout. Le plus rusé, je le démasque. Thomas, mon cousin, lui, il était presque innocent. Alors, quand il m'a dit que son prophète n'était peut-être pas mort, j'ai mis ça sur le compte de sa naïveté. Depuis des mois, il suivait ce Jésus. Un homme extraordinaire à ce qu'il disait, un prophète, un véritable envoyé de Dieu. Il s'était littéralement donné à lui comme si c'était Dieu en personne. C'est vrai que j'ai vu des choses étonnantes de la part de Jésus, mais comme je vous l'ai dit, je réfléchis tout, je calcule tout, je me méfie de tout. Et quand les religieux ont fait arrêter Jésus et qu'on l'a crucifié, je me suis dit que ça sentait pas bon, toute cette histoire. D'ailleurs, mon cousin Thomas, lui-même, s'est mis à douter. Le corps du prophète cloué sur la croix, la foule qui l'insulte, c'était terrible. Et Thomas est venu chez moi. On a causé toute une soirée en écoutant un grillon caché dans mon mur. Au matin, il est parti, puis il est revenu en courant. Il paraît que certains des disciples avaient vu le Jésus, ce Jésus vivant. Je l'ai calmé tout de suite. Mon petit Thomas, les événements de ces derniers jours vous ont tous secoué. Vous êtes un petit peu halluciné, si je puis dire. Alors, ne mélange pas la triste réalité et le rêve. Pas mal dit, hein ? Ne mélange pas la triste réalité et le rêve. Et j'ai fini par le convaincre. Et il est sorti en disant « Je veux voir la marque des clous dans ses mains, je veux mettre mon doigt à la place des clous et je veux mettre ma main dans son côté, sinon je ne croirai pas. » Voilà, à mon avis, ce qui est sain est intelligent. J'ai pensé qu'il était bien parti pour se calmer, alors je me suis couché au chant du grillon. J'aime bien le chant du grillon, ça c'est la réalité du vrai, du naturel, du concret. On ne peut pas douter d'un chant du grillon. Et figurez-vous que le lendemain, Thomas a bondi au petit jour chez moi. Il m'a raconté que Jésus leur était apparu à lui et aux disciples. La porte était fermée à clé. Il est entré sans qu'on sache vraiment d'où. Il leur a dit « La paix soit avec vous », le fameux « Shalom Aleichem ». Mais ils ont mis du temps à se calmer. Le plus fort, c'est que Jésus s'est adressé à Thomas et lui a dit « Avance ton doigt ici et regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, arrête de douter et crois. » Et mon cousin, tout bouleversé, a répondu « Mon Seigneur et mon Dieu ». Heureusement que les religieux n'étaient pas là pour entendre ce genre de choses. C'est pas tout, Jésus a encore dit « Tu crois parce que tu m'as vu, mais ils sont heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. » Bien sûr, cette histoire m'a quand même secoué. Mais le pire, c'est quand je me suis aperçu que le chant du grillon ne venait pas de mon mur, que c'était la voisine qui filait la laine avec son rouet. Si on ne peut plus se fier à la réalité, alors où va-t-on ? Vous l'avez deviné, et puis d'ailleurs je l'ai dit, le texte, ce monologue écrit par M. Combes, il s'agit de Thomas, dont vous avez le portrait, plusieurs portraits là. Thomas, un des 12 disciples, un apôtre, J'ai lu quelque part que entre les années 96 et 2001, Thomas était le nom le plus commun, le plus souvent donné aux petits garçons. Il y a peut-être des Thomas dans la salle, non? Levez la main, les Thomas. Non, il n'y en a pas. Oh. Sinon, vous connaissez, sous le casque d'un des membres de Daft Punk, c'est un Thomas. Sinon, il y a aussi un Thomas qu'on envoie dans l'espace, hein, Thomas Pesquet ou Pesquet, je ne sais pas comment on dit. Hein. Puis il y a Thomas Ramos, le défenseur, l'arrière du 15 de France. Et puis il y a Thomas Voelkler, vous vous souvenez, le Tour de France, et il est à la retraite maintenant. Puis il y a donc ce Thomas Didyme, qui veut dire le jumeau en araméen. L'un des 12, Thomas, surnommé le jumeau, ou Didyme, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur répondit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » « Parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Alors ce Thomas, apôtre, est connu pour son incrédulité, son manque de foi. En grec, la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit, dit « apistos ». Ne sois pas apistos, mais pistos. Ne sois pas incroyant, sans foi, mais croyant, avec foi. Et on connaît l'expression, quand on veut s'échapper un peu, prendre la tangente, on dit « moi, je dois le voir pour le croire, je suis comme saint Thomas ». Et on se cache derrière la sainteté de Thomas pour se dire « moi, je dois le voir pour croire ». Et il a cette réputation que l'on trouve dans les peintures du Caravage, de Signorelli, il s'appelle celui-là, et voilà, c'est la réputation de saint Thomas. Mais quand on lit l'évangile de Jean, d'ailleurs le seul qui parle de Thomas en dehors des listes des disciples, Matthieu, Marc, Luc, il parle de Thomas, l'un des 12, puis c'est tout. Mais Jean parle plusieurs fois de Thomas, là, et puis dans d'autres passages. Et Thomas semble être quelqu'un qui, plus que ses doutes. Il dépasse ses doutes. Il y a un épisode intéressant, c'est quand, au chapitre 14 de l'évangile de Jean, Jésus, comme l'a dit Yvonne, commence à parler de sa mort, et même de sa résurrection, le spoiler de sa propre vie, de sa propre histoire. Et les disciples sont troublés, et Jésus leur dit « Que votre cœur ne se trouble pas lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai là, et puis je vous prendrai avec moi, mais vous connaissez le chemin. » Et puis il y a Thomas qui va dire cette phrase: « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous connaître le chemin ?» Voilà une phrase, une question qu'elle est bonne. Et Thomas fait preuve vraiment de spontanéité. Il pose les bonnes questions. « Seigneur, tu nous parles d'un endroit où tu vas et qu'on connaît le chemin, mais on ne sait rien du tout. Comment veux-tu qu'on sache ?» Et ce qui permettra à Jésus de dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La question de Thomas a suscité une phrase de foi. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et dans d'autres, Jésus, vous savez, était ami avec Lazare, Marthe et Marie, et puis à la mort de Lazare, il attend quelque temps, il dit « Je suis content d'avoir attendu, comme cela, vous allez croire en moi. » Et puis ils disent « On va à Béthanie. » Thomas aura cette parole étrange « Allons, nous aussi, et nous mourrons avec lui. » Pas avec Lazare, avec Jésus, parce que c'était risqué la vie avec Jésus. « Thomas, on y va les amis. » Un homme, quelque part, de foi. C'est pas juste un douteur invétéré, mais un homme qui prend donc la parole avec audace et spontanéité, celui qui interroge de façon directe et avec des questions qui paraissent innocentes, il oriente vers quoi ? Vers la foi en Jésus-Christ. J'ai lu aussi cette remarque intéressante que le doute de Thomas ne concerne pas tant la réalité du ressuscité que la parole de ses compagnons. Il doute de ce que les disciples, ses copains disciples, disent. Nous avons vu le Seigneur. Ouais. Et Thomas n'a pas vu le Seigneur. Il ne met pas sa foi dans la parole des disciples. Il veut voir et rencontrer Jésus de lui-même. La volonté personnelle de Thomas, « je veux voir » doit rejoindre « nous avons vu » de la communauté. Et quelque part, il a raison Thomas, il ne veut pas être en reste, il veut se faire une idée par lui-même, il veut rencontrer le ressuscité lui-même, il ne veut pas simplement croire comme ça un groupe de disciples, même s'ils sont devenus ses amis à la longue, il veut croire, mais pas par « oui dire », il veut croire, mais sans l'intermédiaire de la communauté des déjà croyants. Il veut une démarche, il veut faire une démarche personnelle. Et en ça, il a vraiment raison, ce Thomas. Il est bien, ce Thomas, en fait. Et puis, Thomas n'est pas si buté que ça, puisque c'est un homme qui se laisse bouleverser. Il ne reste pas dans son doute. Il ne dit pas « non, non, mais c'est un sosie ». Comme pour Poutine, certains disent que c'est un sosie. « Non, mais c'est un complot, c'est un coup monté, les complotistes ». Non, Thomas se rend à l'évidence. Et j'aime l'expression « se rendre à l'évidence ». Et le verbe « se rendre ». Il dépose les armes. Il baisse pavillon. Il se rend. Il n'est pas de mauvaise foi, il se laisse bouleverser, chambouler. Et d'ailleurs, il n'attend pas longtemps. Et il faut aussi ajouter que rien ne dit, malgré les peintures du Caravage et de Signorelli, rien ne dit qu'il ait fait les gestes de mettre sa main sur le côté. Jésus l'invite simplement à faire le geste. Rien nous dit que le geste ait été effectif. D'ailleurs, le texte nous montre qu'il n'y a peut-être pas le temps entre l'invitation de Jésus à faire ce geste et la réponse de Thomas. « Mon Seigneur et mon Dieu !» Il est bouleversé dans sa foi, il passe du doute à l'adoration. « Mon Seigneur et mon Dieu !» Et je lis quelques paroles que j'ai lues quelque part. « Le patron des sceptiques pour certains, le patron de la science pour d'autres, ou encore le patron de la philosophie si l'on retient son goût pour les questions et pour le doute systématique, Thomas n'est finalement pas un petit apôtre parmi d'autres, et ses doutes sont aussi des questions aboutissant à l'un des plus grands actes de foi dans les évangiles. « Mon Seigneur et mon Dieu, dit-il à genoux, il est... » bouleversé. C'est comme si, à ce moment de là où il se rend compte, il se rend à l'évidence de la résurrection, tout le puzzle de ces 3 années se construit. Mais oui, toutes les pièces détachées là se rassemblent. Mon Seigneur et mon Dieu, dit-il à Jésus, avec le pronom possessif, « Mon Dieu, mon Seigneur, c'est pour moi, je le comprends, je le prends avec moi, je le proclame. » Et vous savez que les témoins de Jéhovah qui nient la divinité de Jésus-Christ disent que Thomas a dit à Jésus « Mon Seigneur » et qui s'est tourné vers le ciel pour dire « Mon Dieu ». C'est ridicule. Thomas dit à Jésus « Mon Seigneur » et mon Dieu, il est bouleversé dans sa foi. Et puis, il est bouleversé dans sa vie. Il est devenu l'homme qui doutait, l'homme qui était, comme tous les autres disciples, un peu malheureux, attristé. Il est devenu un témoin vivant et puissant. Il y a 40 ans, non pas 40, j'exagère, allez, 35 ans, je lisais chez le dentiste le magazine Gaël, qui n'existe pas, vous savez, les magazines qui sont chez les dentistes ou les médecins, on ne sait pas d'où ils sortent, mais comme ça, c'est pas un magazine chrétien, pas du tout, le journaliste disait, il a dû se passer aux alentours de l'an 30 quelque chose d'assez frappant, pour convaincre des apôtres abattus et démoralisés, pour transformer une poignée de pitoyables fugitifs en une troupe d'hommes résolus, prêts à tout pour défendre leurs convictions. Quoi donc ? Sinon la présence au milieu d'eux du ressuscité. C'est dans Gaël, le magazine Gaël chez le dentiste. Mais il a dû se passer quelque chose pour transformer, pour bouleverser tous les disciples. Et Thomas en particulier, pour devenir un témoin, convaincu, assuré. Quoi d'autre ? Sinon, what else ? Sinon, la présence du ressuscité parmi eux. Selon une tradition, Thomas aurait évangélisé les Indes et la Perse. Et les Indiens d'aujourd'hui disent qu'il a implanté l'église à Kerala et qu'il est mort martyr à Madras. La résurrection transforme Thomas. La résurrection transforme les gens, transforme les vies, bouleverse. Et c'est pas une vue de l'esprit, la résurrection, c'est une réalité concrète, une résurrection des corps, comme dit Paul dans 1 Corinthiens 15. C'est avéré, il est vraiment, ça veut dire en réalité, ressuscité. Et c'est ça qui fonde la foi chrétienne, c'est ça qui fonde l'espérance chrétienne. La résurrection de Jésus a transformé la vie de Thomas, il est devenu saint Thomas. Et il a bien mérité, pour autant qu'on mérite quelque chose, sa béatification, sa sanctification. Il est béni, il est bienheureux, il est riche, et nous le sommes aussi. Heureux ceux qui ont cru sans voir. Heureux, le même mot que dans les béatitudes, makarios, béni, riche, heureux, bienheureux, béat. Et c'est de nous qu'il parle. Nous, on n'a rien vu, n'est-ce pas ? Nous, on n'y était pas. On n'a rien vu, ou presque. Et pourtant, on y croit. On veut y croire. Alors cela ne veut pas dire que, parce que nous n'avons pas vu, nous sommes, mais que nous y croyons quand même, que nous sommes des irrationnels patentés, de doux rêveurs, des spirituels éclairés, des hallucinés. Est-ce que j'ai l'air d'un halluciné ? Non. Moi j'aime à dire qu'il y a de bonnes raisons pour y croire, que la foi n'est pas un harakiri intellectuel, il y a de bonnes raisons pour croire en l'existence de Dieu, il y a de bonnes raisons de croire que Jésus est véritablement ce qu'il prétend être, c'est-à-dire Dieu lui-même, le Fils de Dieu, il y a de bonnes raisons de croire qu'il y a une vie après la mort, et comme disait Coluche, qu'il y a aussi une vie avant la mort, une vraie. Une vie qui vaut la peine d'être vécue, une vie qui a de la profondeur, une vie qui a de l'épaisseur, une vie qui a toutes les dimensions de l'amour de Dieu. Il y a de bonnes raisons pour croire aussi en la résurrection, et une de ces raisons, c'est justement de voir la transformation de ses disciples et l'expansion après du message de Jésus. Il a dû se passer quelque chose. Quoi donc, sinon la présence même du ressuscité ? Il y a de bonnes raisons pour croire, mais on n'a rien vu. Il faut donc quand même, à un moment, un mouvement de foi pour vivre ce bouleversement, un moment d'abandon, pour ne pas dire, comme on dit beaucoup aujourd'hui, un lâcher-prise, un abandon non pas dans l'irrationnel, mais dans la confiance que celui qui a accueilli Thomas dans ses doutes peut nous accueillir aussi. Et puis, si nous pouvons dire que nous n'avons rien vu, nous pouvons aussi dire que nous n'avons encore rien vu. Mais ça va venir. On va voir. Tout œil le verra. Et ça, ça va être grand, les amis. Et puis, il y a Dieu qui dit à son peuple en exil, « Car je connais les projets à venir que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. L'espérance de la résurrection. Soyez-en bouleversés. » Amen.